Bonjour à chacun. On va voir si on arrive à lancer ce PowerPoint. Alors, ce matin, j'aimerais juste donner une petite réflexion, juste avant, comme tu as bien mentionné, demain matin, très, très tôt, on va s'envoler pour Madagascar pour de nouveau 2 semaines de mission. Et puis, j'aimerais vous inviter à voyager un petit peu avec nous. Et je le fais à travers, d'une part, une réflexion, une courte réflexion, quelques pensées à partir de certains versets clés, mais après aussi de vous démontrer finalement ces principes du royaume de Dieu, comment ils s'appliquent aussi sur le terrain. Et en introduction, j'aimerais juste mentionner que j'ai aussi été inspiré par un livre qu'on étudie dans le cadre d'une des formations qu'on donne. La forêt dans la graine. Vous dites, mais c'est quoi comme titre? La forêt dans la graine. Nous avons un créateur qui est absolument génial. Est-ce que vous êtes aussi passionné que moi pour réaliser que Dieu est ici? Nous l'avons chanté. Nous disons qu'on aimerait que Dieu forme son amour en nous. Nous l'avons chanté. Et que de chacun de nous, il dispose. En fait, c'est le message de fond. C'est de savoir que lui, il s'est engagé de nous révéler tout son plan, de collaborer avec nous. Il dit, jusqu'à la fin du monde, je vous garantis, je suis avec vous. Ce n'est pas la théorie. Tout ce que Dieu dit, c'est la réalité pure. Donc Jésus est ici présent maintenant en nous. Et avec Doris, on a un cheminement parallèle, mais sur le même sens de réaliser encore davantage que nous avons besoin de travailler cette prise de conscience, Jésus en moi, activé. Pas ici juste la compréhension et du salut global, mais le salut. Cette graine, la parole de Dieu, active aujourd'hui dans tous les domaines, pas catégorisée dans un domaine ou dans un autre. Donc, vous dites peut-être pourquoi tu choisis, où es-tu? Est-ce que ça vous rappelle cette question? Est-ce que ça a été posé la première fois? À Genèse, après une bourde lourde de conséquences, nous, est-ce que nous, on fait aussi des bourdes? Ça nous arrive aussi, ou seulement à moi? Donc, on se perd. Puis après, on essaye de faire comme de cacher, d'agir comme rien s'est passé. Et Adam et Ève se sont essayés de se cacher. Et Dieu les appelle et puis dit, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où ils étaient? Franchement. Ils étaient perdus. Parfois, c'est aussi ça, c'est ce qui nous arrive. Donc, on se perd de jardin. Ils étaient placés dans le jardin d'Éden pour travailler avec lui, être enseignés par lui. Et nous savons la conséquence de leur péché, de choisir eux-mêmes de prendre les décisions à partir de manière indépendante. Qu'ils ont été exclus du jardin d'Éden. Donc, ils ont dû travailler en dehors de son jardin. Malgré cela, Dieu a créé toute la terre. Nous savons en Genèse 1, 26 et Genèse 2, 15. Je mentionne juste Genèse 2, 15. Je le lis. Le Seigneur Dieu prend l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu a appelé Adam et Ève à être féconds et se multiplier. Et aussi pour, il lui a, leur a donné la mission de soumettre la terre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous de travailler, de prendre soin de nos propres jardins? Et j'aimerais vous inviter à une réflexion. Donc, Dieu nous invite à travailler comme ses représentants. Il y a juste un problème majeur. Adam et Ève ont perdu la ligne directe. Alors, ils commencent à se débrouiller. Et une des premières choses qui s'est fait, ils ont commencé à retourner la terre. Aujourd'hui, on réalise que ce n'est pas la meilleure manière de cultiver, mais que Dieu avait prévu un autre plan pour couvrir la terre. Regardons dans la forêt, comment la forêt se développe et comment elle reste saine à long terme. Donc, il y a le problème de travailler à la manière de l'homme, indépendant de sa direction spécifique, parce que Dieu, encore une fois, il est le Dieu de scientifique par excellence. Nous avons chanté qu'il est le Dieu, nous avons chanté de la beauté. Dieu aime ce qui est beau, donc il aime l'art. Donc tous les secteurs de la vie, il s'intéresse. Et la création matérielle était faite par Dieu pour être développée, cultivée et soignée d'un nombre infini de manières par le travail humain. Donc il nous a donné un mandat de gestion et de gérer, développer, multiplier, étendre. Et nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, et puis qu'est-ce qu'on apprend encore tous les jours? Il paraît que, justement, la science va à un rythme tellement accéléré. Donc, ça prouve bien que depuis l'origine, il y a dans cette... Dieu a donné une capacité à l'homme de développer les choses. Mais il lui a aussi dit, je suis ton Seigneur, je suis celui qui t'enseigne, celui qui est la sagesse, celui qui te donne la parole qui va te nourrir, qui va t'inspirer pour que tu restes sur un projet qui se développe à long terme, durablement. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on développe beaucoup de choses, mais déconnecté de Dieu, surtout dans tous les domaines scientifiques, et puis aussi à l'école, les matières mathématiques, etc., qui nous enseignent, ils sont surtout décrochés, détachés de l'origine du mathématicien Dieu. Ce que Jésus a fait, c'est pratiquer la vérité. Il aime ce qui est réel. Jésus l'a fait, et cela a fonctionné. Hébreux 5, 8 dit que, bien qu'il fût un fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc imaginez-vous, Jésus qui est fils de Dieu, il est pleinement homme, pleinement Dieu. Lui-même, il continue d'apprendre à obéir pour rester en relation avec son Père. Donc c'est aussi notre invitation à pratiquer la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est une personne. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des matières. La vérité, c'est une personne. Et le plus que nous sommes conscients que Jésus en nous, quand nous travaillons, quand nous apprenons, qu'on a une relation ouverte pour dire, montre-moi ce que tu vois par rapport à ce que j'apprends. Nous avons entendu par, je crois, Jean-Paul qui a mentionné que c'est les choses aussi non matérielles ou les choses invisibles et les choses visibles. Il y a beaucoup plus dans l'invisible que qu'on veut croire. Et Dieu veut nous inviter à voir ce que lui voit. Donc, ça nous donne une autre perspective, une interprétation sur les choses qu'on voit. Alors, si vous travaillez en équipe avec une personne et vous demandez au Saint-Esprit de vous montrer ce que lui voit dans la personne, je peux vous garantir, votre connexion avec la personne va s'accentuer, va se développer. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous montrer, nous révéler ce que lui voit pour que nous puissions le refléter davantage. Parce qu'il ne s'agit pas de succès. Que nous, on paraît comme quelqu'un qui est très sage, mais il s'agit de refléter vraiment Dieu, sa nature, son caractère, sa manière de fonctionner. Trois choses que j'aimerais mentionner qui nous invitent dans ce mandat, c'est une part prendre soin des choses tout à fait naturelles. Deuxièmement, de prendre soin des gens, de s'intéresser, s'occuper, de développer des personnes. Et troisièmement, étendre son royaume en multipliant les images de Dieu par l'évangélisation et le discipulat. Alors, pour un exemple, je prends par exemple quelqu'un qui s'est absolument fantastiquement préoccupé des choses, qui était un bon gestionnaire, c'est Joseph. Joseph était un grand exemple d'un ouvrier qui a été planté dans trois des propres jardins. Donc, j'utilise l'image des jardins, des jardins d'Éden, que Dieu nous donne aussi des jardins à cultiver. Alors, la première, c'était la maison de Potiphar. Il a pris soin de cette maisonnée jusqu'à ce qu'il ait été nommé à la tête de tous les biens de cet homme pour pouvoir le bien gérer. Deuxièmement, il était en prison, dans un endroit plutôt de souffrance, de difficulté, d'obstacle. Encore une fois, il s'est occupé des choses pratiques et il était placé dans des positions de ses responsabilités, même en prison, pour, troisièmement, être préparé pour le troisième jardin, qui était finalement le commandant en second sous Pharaon pour gérer une crise majeure directement sous Pharaon. Donc là, c'est quelqu'un, un exemple qu'on peut s'en inspirer, Genèse 39, 3 à 9, pour dire, nous avons reçu un mandat à l'origine, dans Genèse, pour gérer, développer les choses, parce que Dieu aime la matière. Dieu aime la création. Il s'y intéresse et nous devons nous préoccuper aussi de l'environnement, des choses naturelles. Deuxièmement, l'apôtre Paul. Dans 1 Thessaloniciens 3, 9 et 10, l'apôtre Paul est quelqu'un qu'on voit comme un pionnier, comme quelqu'un qui est plutôt rude, direct, fort dans ses paroles. Mais en même temps, on découvre quelqu'un qui a pris soin des gens. J'aimerais souligner cet aspect. L'apôtre Paul est une grande illustration de quelqu'un qui prenait soin de ses collègues de travail. Par exemple, Timothée, il s'est investi comme son fils. Il a pris soin du temps de qualité prioritaire et a investi tout ce qu'il a reçu pour le transmettre à une prochaine génération. Sa relation était si étroite qu'il exprimait une profonde émotion pour eux, comme un père le ferait pour ses propres enfants. Parfois, il parle de ses églises, que lui, il est en prière continue et qu'il est impressionné par l'amour qu'ils ont, la compassion qu'ils ont. Donc, il vibre avec eux. Ils font partie de sa famille. Donc, il se préoccupe au point qu'il prie même des nuits entières. Il le dit, il agonise aussi quand ça va mal. Il prend soin. Donc, il y a cet aspect de prendre soin. Et troisièmement, finalement, l'expansion du royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes le sel de la terre. Et il est dit, si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il est bon pour qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Vous voyez bien que notre lumière, c'est qu'elle est accompagnée par des actes, par des comportements qui vont parler et qui vont inciter les gens à glorifier Dieu. Imaginez-vous que votre travail soit tellement bien fait parce que vous vous investissez, vous travaillez avec le Seigneur et que c'est tellement excellent que les gens se disent « Waouh, impressionné. Ça parle. Et c'est beaucoup plus une démonstration pour l'expansion du royaume de Dieu que simplement les paroles. Donc, le sel et la lumière, nous savons, sont des métaphores pour décrire comment nous devons être féconds et multiplier les images rachetées de Dieu et influencer les autres au nom de Jésus. Mon cœur sait qu'il y a plus de démonstrations de la gloire de Dieu en nous, à travers nous, pour que le monde sache que là, il y a une vraie croissance personnelle et puis aussi de l'Église dans son ensemble. Nous savons aussi que le sel conserve et la lumière dissipe l'obscurité. Nous devons nous démarquer comme un contraste frappant parmi les gens avec qui nous travaillons. Que ce soit de plus en plus une réalité qu'on puisse démontrer qui est Dieu. Je reviens début septembre d'une conférence de Jeunesse en Mission internationale et cette fois, nous avons eu le privilège d'avoir beaucoup de gens qui sont dans les nations fermées. Nous avons entendu leurs témoignages et de réaliser qu'au travers, même les situations les plus difficiles, ça rayonne. C'est glorieux ce qu'ils vivent. C'est incroyable comme ils sont une démonstration au milieu de difficultés majeures. On ne peut pas s'imaginer un qui était en Corée du Nord pendant 2 années enfermé, martyrisé, etc. Il nous a raconté certaines histoires. Bien sûr, ce n'était pas public. On a tout fermé pour qu'il n'y ait aucun accès. On devait protéger toutes ces personnes. Mais juste pour dire que la graine de la parole de Dieu activée dans la personne, indépendamment des circonstances, c'est vraiment glorieux. C'est vraiment de démontrer au monde que Christ est vivant, il est bien vivant. Et puis, il veut se manifester dans ma vie et puis en chacun de nous. Alors, nous avons, chacun est créé d'une manière unique, à une singularité. Nous savons que l'iris, que l'empreinte, au pouce, etc., chaque personne dans ces presque 8 milliards, 7, 8 milliards de personnes sur le monde sont singulièrement différents. Ça parle d'un Dieu qui est incroyable. Imaginons-nous de pouvoir produire ça. Et dans ça, dans la continuité. Donc, c'est dans ce contexte, l'apôtre Paul affirme une origine divine unique pour son appel en tant qu'apôtre. Une composante majeure de son œuvre vocationnelle. Donc, lui, il est conscient qu'il a une destinée, un appel, une vocation particulière. Parce qu'il parle comme une course. Et il dit, je ne suis pas encore arrivé, mais je continue pour gagner la victoire. Et moi, je pense, je suis convaincu, si Dieu nous a créés tous différents, et puis qu'on est chacun différent, que Dieu veut nous inviter aussi à une course, à une destinée en Dieu, et de le courir jusqu'au dernier souffle. Il n'y a pas de retraite. Spirituellement parlant, ça n'existe pas. C'est que nous sommes dans une course. C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, laissons de côté tout poids et tout péché qui s'accroche de si près, et courons avec endurance la course qui nous est proposée en regardant à Jésus. Nous ne devons pas nous fatiguer et encore plus travailler. Je fais juste allusion, je voulais d'abord le montrer, un vidéoclip d'un juif qui parle des 6 jours du Shalom Shabbat. Mais je dis juste ceci, c'est dans la compréhension juive, le 6 représente la matière, tout ce qui est matière. Et le 7, c'est le domaine spirituel. Et leur compréhension, c'est que le spirituel transverse par tous les 6, toute la matière. Si on s'imagine un cube, le spirituel, il est partout. Donc, il y a une intégration absolument complète. Et puis, est-ce que vous savez, dans son vidéoclip, il dit, vous avez 24 heures, vous avez une année, vous avez un mois, et tout ça, on peut astronomiquement expliquer. Mais il dit, et le 7, ça vient d'où? 7 jours, une semaine, ça vient d'où? Et il dit, ça vient de la Torah. Ça vient pas de l'astronomie. Dieu qui a introduit le Shabbat, parce qu'il sait que si tout n'est pas spirituellement imprégné, nous allons nous fatiguer. Nous allons avoir toutes sortes d'effets sur notre corps et d'échecs et toutes sortes de désagréments dans notre vie. Alors, pour dire que si nous courons à la manière que Paul nous le présente, en regardant à Jésus, en restant dans cette connexion, en apprenant de lui, on ne doit pas s'essouffler. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler dur et de s'engager, de pouvoir persévérer, mais c'est une autre manière de faire. La présence de Dieu qui se manifeste comme un shalom, comme un soutien en dessous. Et on sait, on prend conscience que malgré le travail effréné, on est gardé dans sa main. Et c'est cette image que j'aimerais vous laisser. Albert Einstein, qui ne connaît pas Albert Einstein? Il m'inspire. Parce qu'il a dit, je n'ai pas de talent spécial. Je suis seulement passionnément curieux. Et je trouve que ça caractérise beaucoup. Parce que Dieu nous invite à le découvrir. Et pas à s'arrêter, je sais. Mais c'est de continuellement poser des questions. On n'a pas besoin d'être maître de tous les domaines. Mais dans le domaine que Dieu nous attribue, ce jardin qu'il nous attribue, la responsabilité qu'il nous attribue, c'est de pouvoir collaborer avec lui, rester curieux, d'apprendre toujours, innover. Et dans l'entrepreneuriat, on sait que ces entreprises qui s'endorment sur les succès, à un moment donné, ils sont loin. S'ils ne se réinventent pas continuellement, ils sont tout à coup loin. Donc, il a reçu le prix Nobel. On pense qu'il a eu un QI de 160 à 180. Il a même raté l'école, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu son histoire. Scolairement, il était un échec. Et pourtant, il est un exemple de quelqu'un qui a découvert des choses essentielles pour le développement. Donc, par exemple, dans le domaine photoélectrique, etc. Une autre chose qu'il a dit, qui est aussi liée par rapport à justement de courir cette course dans la continuité, la persévérance n'a pas de prix. Ce n'est pas que je suis intelligent, mais seulement que je prends le temps de vivre avec mes problèmes. J'aimerais juste dire, nous sommes en fait avec Dieu invités à manger les problèmes, pas les repousser. Mais c'est de ne pas faire débrouiller nous-mêmes, mais de faire face aux problèmes avec Dieu pour qu'on creuse plus profond, pour qu'on le cherche, pour qu'on reste curieux, persévérant, pour recevoir finalement son éclairage et puis de pouvoir aller plus loin. Alors, le texte de Matthieu 28, c'est très connu. J'aimerais juste relever un aspect spécifique. J'ai reçu les pleins pouvoirs, c'est Jésus qui dit, dans le ciel et sur la terre. Merci Seigneur. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples. Là, j'aimerais m'arrêter. Faites des disciples, c'est plus que des croyants. Nous ne sommes pas appelés à faire des croyants. Parce que de toute façon, c'est l'œuvre de Jésus. C'est de l'œuvre de l'Esprit. Nous ne pouvons pas convertir qui que ce soit. Par contre, nous pouvons être impliqués de former, de transmettre des disciples pour que les gens puisse de plus en plus refléter la nature de Christ. Donc, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est notre mandat, c'est notre tâche. C'est d'apprendre tout ce que Dieu a déjà dit, ce que j'ai dit, Jésus, et Jésus valide aussi l'Ancien Testament. C'est-à-dire toute la sagesse de Dieu pour tous les aspects de la vie. Enseignez-leur ma manière de fonctionner en tant que Dieu, comment j'ai conçu les choses dans tous les domaines. Et encore une citation de Albert Einstein, « La connaissance provient de l'expérience. » L'information n'est pas une connaissance. La seule source de connaissance est l'expérience. Dans la mesure où ça reste intellectuellement acquis, ce que je sais de Dieu, ce n'est pas encore digéré. J'ai besoin personnellement de faire le cheminement de me l'approprier, de le vivre, de le pratiquer. Et lorsque je le pratique, et je l'ai pas seulement compris, mais je l'ai compris parce que je le vis, et je peux l'enseigner, c'est une autre dimension à laquelle j'aimerais nous inviter. C'est que ce n'est pas suffisant de connaître des choses sur Dieu. Bien que c'est un bon début d'être conscient, mais c'est la pratique qui rend permanent, la pratique qui nous donne après l'autorisation, en quelque sorte, de pouvoir parler d'un sujet. Et c'est à ça que Dieu nous appelle tous. Ce n'est pas juste pour certains. Vous dites, oh, bon, moi, je suis pas enseignant, donc... Mais vous êtes peut-être parents. Donc, votre jardin, c'est déjà votre famille. Et puis après, vous avez d'autres sphères d'influence, d'autres jardins. Vous pouvez cultiver, développer donc les choses, les personnes, et d'amener le royaume de Dieu. Nous avons vu ça ce matin. Ça, c'était le dimanche passé. Mais c'est juste pour dire, vous savez, on a un jardin. Imaginez toutes ces personnes qui s'activent pour pouvoir enseigner des choses. Ce n'est pas juste anodin. Nous posons des fondements spirituels pour ces petits-enfants. Bien sûr, dans la famille, c'est aussi votre jardin. Comment est-ce que vous le pratiquez? Où est-ce que vous êtes? Et là, je reviens sur ma question. Où es-tu? Quel est ton jardin? Est-ce que tu es conscient que tu as des jardins? Ça peut être différents jardins. La famille, c'est le réseau de relations que tu as, l'entreprise que tu gères, la communauté dans laquelle tu es impliqué en tant qu'église. C'est des jardins. Comment je cultive avec Dieu activement ce jardin? Autant au niveau matériel, je prends soin, on va justement parler de cette journée de travaux, prendre soin des choses matérielles, par là nous démontrons aussi que nous avons une vue holistique, globale. Il n'y a pas juste le spirituel qui est important, mais il y a tous les aspects. Et après aussi s'occuper des gens, et puis de voir comment cette Église peut rayonner bien au-delà du Huillé et de la région. Alors, quelques reflets de notre travail. Le but, c'est simplement de dire, quand on commence à marcher avec les personnes, et c'est ce que nous faisons à travers une formation de développement d'entreprise, c'est-à-dire on forme des gens dans l'économie. Par exemple, on était dans des universités qui sont orientées vers l'économie. Donc, on a eu à gauche, en haut, des enseignements auprès des étudiants en économie. Au milieu, un couple de chirurgiens, tous les deux sont chirurgiens, et qui veulent, à droite, développer avec aussi notre collaboration avec Mercy Ministries Madagascar, avec lesquels on travaille. D'ailleurs, on a Mercy Ministries Suisse, une organisation ONG à Burtini. Donc, il y a une collaboration. Donc, on veut développer avec eux un partenariat pour un hôpital. Et puis, là, on était à gauche, en bas, on était sur chez un entrepreneur qui est, comment est-ce qu'on dit, En tout cas, il est responsable, il est propriétaire de bateaux, armateur. Voilà, merci. Armateur, et puis il a trois bateaux, et puis en tant qu'école, nous sommes allés sur ce bateau. Et avec le personnel aussi qui n'est pas engagé, nous avons les bénis, tout le personnel là-bas sur place. Mais c'est l'armateur, lui, il est dans notre formation. Et le témoignage de ces cadres et de ce personnel, c'est que toute l'atmosphère depuis qu'il a commencé cette formation, l'atmosphère a changé. C'est une entreprise à environ de 70 personnes sur trois grands bateaux. Et on voit qu'à travers la formation qui touche la famille de l'entrepreneur ou de la personne, c'est juste un exemple, ce n'est pas juste dans le domaine entreprise, c'est que le royaume de Dieu commence à se manifester, comment les gens prennent soin des choses, des personnes. Et finalement, le royaume de Dieu va se manifester. Et c'est ça le but. Francis, certains le connaissent, n'est-ce pas? Il était déjà là ici, il a fait son école de formation disciple à Burtini, et puis il est allé en phase pratique avec Doris pour servir Madagascar, et puis il a perdu son cœur là-bas. Donc il est resté là-bas pendant au moins 12 ans, devenu responsable de Mercy Ministries Madagascar pour une période. Et maintenant, il est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pour développer plus largement l'océan Indien, mais aussi l'Afrique. Et puis, on collabore. Et lui, avec son épouse, fait aussi cette formation. Je le vais voir dans une semaine avec son épouse. Et il va commencer cette même formation, même maintenant déjà en Afrique du Sud. Donc, on va continuer de multiplier. On a déjà une petite vingtaine d'étudiants. Mais ça continue de se multiplier. Mais le but, pourquoi je vous le montre, et puis je vais vous prendre avec nous un petit peu, c'est que les principes du royaume de Dieu, ils fonctionnent. Ils apportent du fruit. Et il ne s'agit pas juste en superficie de comprendre des choses, mais leur vie personnelle, leur vie de couple, c'est ça qui est intéressant, change et finalement aussi leur entreprise, leur environnement, de leur vocation. Ça, j'aimerais voir de plus en plus aussi transposé dans nos vies et dire que nous sommes une église qui n'est pas juste connue, entre guillemets, pour être des gens qui savent beaucoup de choses et bien, mais qui pratiquent et qui s'inspirent mutuellement pour rester dans la formation comme une course vers l'excellence où Dieu se manifeste dans notre vie, pas parce qu'on est supérieur, mais simplement parce qu'on est un Dieu qui est incroyable, qui est supérieur, qui est à tous les superlatifs, que nous voulons honorer, que nous voulons glorifier à travers nos vies. Et puis ça, c'est à droite en bas, c'est juste une amie aussi, Rutso, qui a commencé à une petite entreprise dans le domaine commerce et qui aussi, par là, peut amener une plus-value dans sa communauté, déjà pour elle-même, mais aussi pour sa communauté. Et le dernier exemple que j'aimerais donner, c'est un autre étudiant qui est au bout, au milieu, qui a commencé un cours de Crown Financial Ministries, donc de gestion biblique finance, que nous voulons offrir à nouveau l'année prochaine. Et il est allé de Tamatave, de la ville portuaire au nord-est, où c'est très pionnier. Et une des premières choses que le Seigneur lui a ouvert la porte, c'est de pouvoir former des gens en gestion finance. Alors, il y a des pasteurs là-dedans, il y a toutes sortes de personnes, il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils ne sont même pas encore engagés dans la foi musulmane, qui sont intéressés par des principes bibliques finance. Et ce qui est incroyable, en 4-5 mois, ils sont en train d'appliquer ces principes bibliques, autant sur le plan de former les gens, mais c'est aussi d'entreprise où je suis, et là je pourrais m'étendre, mais juste pour dire que le but qu'on a, c'est qu'ils puissent s'autofinancer. Et ils ont des entreprises, une entreprise de yaourt, et ils ont un yaourt de soja, qui est encore plus sain. Donc, ils ont fait toute une réflexion. Et aujourd'hui, ils acheminent vers le but qu'ils peuvent, en tant qu'équipe, s'autofinancer. Imaginez-vous, en termes de développement, ce que ça veut dire quand les gens ont compris que la graine, la parole de Dieu, est active en eux, qu'ils ne sont pas dépendants de l'extérieur, des ressources extérieures, mais qu'ils puissent développer leurs talents pour pouvoir finalement subvenir à leurs besoins locaux. Et en même temps, c'est une démonstration d'un excellent produit et ça leur donne la possibilité de témoigner qui est Dieu dans un environnement totalement musulman. Beaucoup de Comoriens, le pays comorien, un des pays les plus fermés dans le monde pour l'évangile, mais il y a beaucoup de Comoriens dans cette région. Donc, on voit le royaume de Dieu avancer. Et nous, on juste contribue notre petite part dans un mouvement qui se développe pour continuer d'investir dans des personnes qui investissent dans d'autres personnes pour investir encore dans d'autres personnes, donc pour créer un mouvement. Et c'est ça que je voulais dire. Et puis, pour conclure en beauté, disons, ça c'est, nous avons la possibilité aussi de pouvoir vous inviter à continuer à vous former, pas juste pour vous former vous-même, mais pour devenir une source de bénédiction pour d'autres et de pouvoir faire ce cours pour ceux qui n'ont pas encore fait, cours de gestion financière qui commence le 8 janvier. On a mis des dépliants